Mais tout de suite, Muriel, nous allons entrer dans le vif du sujet qui nous regroupe aujourd'hui. Mémoire traumatique et victimologie, c'est une association que tu as créée. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter ton association?
Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité. Alors, mon association, la mémoire traumatique et victimologie, existe depuis 2009. Je l'ai fondée en 2009 et j'en suis présidente depuis. On a un bureau restreint avec où on est quatre fidèles, hein, d'entre les fidèles, pour gérer cette association. Et le but de cette association, c'était de donner un maximum d'informations accessibles, gratuites, sur non seulement les violences, toutes les formes de violences, mais aussi sur toutes leurs conséquences particulièrement, et sur le traumatisme qui est encore bien trop méconnu par rapport à son importance, et aussi de faire de cette association un outil de plaidoyer, de lutte contre les violences, de lutte féministe, contre toutes les discriminations, et d'essayer de faire avancer tous les combats, les lois, voilà, et la protection des victimes et leur prise en charge. Voilà.
Comment es-tu arrivée à t'intéresser à ce sujet?
Alors, j'ai presque envie de dire depuis toujours. Déjà enfant, face à la violence des adultes, j'avais une révolte et puis je m'étais en quelque sorte juré de faire quelque chose quand je serais grande et de lutter contre les violences, particulièrement dans une vision assez féministe, parce que je trouvais que le monde était particulièrement injuste pour les filles. Et puis j'avais été confrontée à de la violence sexuelle. Enfin, tous ces éléments-là faisaient que j'avais envie de changer le monde, ou sinon ça me donnait pas très envie de vivre dans ce monde-là et de continuer. J'étais dans un milieu vraiment à la fois très violent, très précaire. Enfin, c'était dur, quoi. Et puis, ensuite, j'ai voulu être médecin. Ça me paraissait une bonne entrée pour essayer de faire quelque chose pour changer les choses et au niveau humain. Et dans ce cadre-là, la psychiatrie est venue à moi, surtout que c'était une période d'ouverture de la psychiatrie.
Donc dans les années 70,
Ouais, avec toute la
la
composante
réflexion.
humaniste, la réflexion. Donc c'était vraiment passionnant. Enfin, on était avec des gens passionnants, sauf que la réalité était tout autre dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Et c'était une violence inouïe, avec des injustices totales. Et ce que j'avais déjà bien ressenti avec toutes mes amies, quand on parlait, la fréquence des violences sexuelles. Enfin, j'ai oublié de dire que pendant mes études médicales, j'ai été très militante. C'est parti d'un syndicat où on essayait de faire bouger les choses autour de tout ce qui était la domination patriarcale au niveau de la médecine, bien entendu l'IVG, enfin tous les grands
Écran
combats.
combat.
Et du coup, on était. Toutes les jeunes femmes qu'on était, on se parlait et on était toutes, on pouvait toutes parler des violences qu'on avait subies, particulièrement des violences sexuelles. J'avais beaucoup d'amis qui avaient subi des incestes, enfin, donc tout ça c'était très présent déjà. Et quand je suis arrivée en psychiatrie, moi spontanément, je m'intéressais, puis avec la connaissance de mon histoire aussi et de toutes les violences que j'avais subies et je voyais bien les conséquences que ça avait sur ma santé, donc je posais des questions, tout simplement. Et toutes les personnes me répondaient et décrivaient des violences extrêmes qu'ils avaient subies depuis l'enfance. Et j'ai commencé à faire des recherches toute seule parce que c'était pas du tout enseigné sur tout ce qui était névrose traumatique, tous les troubles psychotraumatiques. Il y avait des choses, mais c'était plutôt la psychiatrie militaire. Et puis bon, il y avait la psychanalyse avec effectivement Freud, Abraham et Ferenczi qui avaient vraiment développé quand même ces éléments-là. Avec, bon, des choses auxquelles j'adhérais, d'autres pas, même si c'était très présent dans la psychanalyse. Et du coup, l'évidence, c'était que tous les symptômes que présentaient les personnes, c'était quand même directement lié aux violences et qu'on ne pouvait pas penser que la psychiatrie, ça tombait du ciel comme ça, que les gens étaient malades mentaux pour rien. Enfin, que,
Et c'est
quand
pas
on
par hasard.
voyait, voilà, quand on voyait à quel point leur vie avait été saccagée, détruite, Et puis, je trouvais qu'il y avait une sorte de violence institutionnelle hyper injuste.
Qui en rajoutait une couche
et que tout rajoutait des couches sur ces personnes-là qui avaient des parcours. Et puis, j'ai eu envie de comprendre aussi tout ce qui était de l'ordre de la violence retournée contre soi. Donc, à commencer par les suicides, mais aussi tout ce qui était scarification,
mutilation,
conduite à risque, mise en danger, conduite sexuelle à risque chez les personnes qui avaient subi des violences sexuelles. Et moi, j'étais persuadée que tout ça, ça avait du sens.
Et que ça avait du lien, voilà, qu'il fallait le chercher, mais qu'on allait le trouver.
Alors, très rapidement, tout ce qui était mémoire traumatique pure, c'est-à-dire tout ce qui concernait les réminiscences, les flashbacks face aux violences, ça c'était quand même assez bien décrit. Et que, du coup, aussitôt qu'on faisait des recherches, on trouvait beaucoup de choses. Et puis, on trouvait beaucoup de choses aussi avec la littérature américaine. Donc ça, j'ai eu pas mal d'éléments sur ce qu'on appelait l'état de stress post-traumatique, qui a été défini un peu plus précisément en 1980. Donc, c'était vraiment pendant cette période.
Une autre fois où je t'avais interviewé, tu avais aussi évoqué, là, tu as fait allusion très rapidement, et j'aimerais bien que tu redéveloppes un tout petit peu, c'est la place de la psychiatrie militaire, enfin, de ce qui se passe pour les soldats, parce que je trouve que c'est un élément intéressant au sens où, bien sûr, les violences sexuelles et sexistes sont tellement prégnantes dans la société, elles concernent tellement de monde, bien plus que des soldats. Ça devrait être beaucoup plus pris en charge. Et en fait, on se rend compte que c'est l'inverse. La souffrance des soldats qui reviennent de guerre, quelle qu'elle soit, est énorme, évidemment, mais ils sont beaucoup moins nombreux.
Oui.
Et du coup, c'est aussi ça qui t'avait apporté pas mal d'éléments sur la mémoire traumatique.
Oui, tout à fait, parce que vraiment, la névrose traumatique, c'est avec 14-18, hein. C'est là où on a commencé vraiment. Enfin, on en parlait avec les catastrophes ferroviaires du 19e siècle, des choses comme ça. Mais vraiment, là où on a commencé à vraiment développer de façon beaucoup plus importante cette notion, c'était 14-18. Et où là, les psychanalystes ont eu quand même un rôle important. Parce qu'ils ont dit non, mais c'est pas. Parce que, en fait, les premiers soldats en 14-18, qui avaient des troubles psychotraumatiques très graves, qui avaient des phobies totales, qui étaient complètement sidérés, avec des dissociations, enfin des conséquences psychotraumatiques gravissimes, il y en a qui se sont retrouvés fusillés, parce qu'on considérait que c'était du sabotage, du moral des troupes, qui ne voulaient pas aller au combat. Et,
comme s'ils se révoltaient contre la guerre.
Voilà.
En fait, ils se révoltaient contre leur propre souffrance.
Voilà. Et du coup, les psychanalystes ont dit non, c'est pas de leur faute, c'est la violence de la guerre qui a développé ça. Mais le point de départ, derrière tout ça, et dans la psychiatrie militaire, ça a été très présent, puisque donc il y a eu 14-18, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu les camps, il y a eu la guerre du Vietnam qui a fait vraiment là bondir le développement de la notion de névrose traumatique, parce que les Américains se sont retrouvés avec des vétérans qui étaient dans des états catastrophiques et surtout qui sont devenus extrêmement violents. Enfin, ils ont dû gérer des conduites addictives très importantes, des conduites violentes très importantes. Enfin, ils ne savaient plus quoi faire de ces personnes-là.
Qui auraient dû être des héros et qui se retrouvaient des épaves.
Enfin, voilà.
Malgré elles, bien sûr. Hein, mais...
Et derrière tout ça, il y avait quand même une composante de jugement négatif, où ceux qui développaient les troubles psychotraumatiques importants, c'était des faibles, quoi. C'était des gens qui avaient une nature à développer des conséquences psychotraumatiques.
Parce que tous ne les développent pas.
Alors, si, dans l'ensemble, tous, mais de façon plus ou moins, comment on peut dire, visible et gênante par rapport à la société. Et puis, ceux qui arrivaient à recycler leurs troubles psychotraumatiques en exerçant de façon très dominante des violences autour d'eux, dans l'ensemble, ceux-là passaient au travers des radars et étaient plutôt, eux, reconnus comme des héros. Tout comme lors des troubles psychotraumatiques, ceux qui avaient ce qu'on appelait une folie guerrière, enfin, qui se mettaient à avoir des comportements extrêmement violents et des conduites à risque en se mettant en danger, pouvaient être reconnus comme des héros, en fait. Et ceux qui, au contraire, étaient tétanisés par la violence, eux, étaient plutôt délégitimés et puis jugés négativement. Donc, en fait, la psychiatrie militaire, elle a eu ce mérite-là de vraiment faire prendre conscience. Cette prise de conscience avec le Vietnam, les féministes s'en sont emparées pour dire oui, mais nous, toutes les victimes de viol, elles ont les symptômes que vous êtes en train de décrire, donc il faudrait peut-être vous en préoccuper, parce qu'au départ, les troubles psychotraumatiques, c'était la confrontation à la mort. Donc, du coup, le viol, par exemple, n'entrait pas dans ce cadre-là.
Encore que.
Oui, bien sûr. Mais enfin.
La situation de viol.
Bien entendu. Mais
en fait, si tu te laisses faire bien souvent, c'est pour survivre.
Oui, bien sûr.
Mais parce que tu sens bien que sinon, tu vas mourir. Parce
puis
que...
t'es réduite à un état d'objet qui est une mort humaine, quoi, en quelque sorte. En
fait, oui, puis je pense aussi que tu perçois bien la violence de l'agresseur, qui est que si tu te laisses pas faire au point qu'il puisse pas avoir ce qu'il veut, il est capable de te tuer.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais dans la vision. Combative, masculine des choses, ça n'avait rien à voir, quoi, avec une confrontation avec la mort. Donc il y a eu cet élément-là, mais surtout la psychiatrie militaire, là où ça a vraiment bien bugué, c'est sur cette notion, c'est pas n'importe qui fait des troubles psychotraumatiques, et c'est lié à une constitution,
une fragilité personnelle,
une incapacité à se relever par rapport à des situations, un manque de courage, enfin, vraiment pas mal d'éléments qui étaient quand même très négatifs,
qui culpabilisent la victime.
Et quand on a commencé à faire des études en population générale aux États-Unis dans les années 80, on s'est aperçu qu'il y avait trois fois plus de femmes qui avaient des troubles psychotraumatiques que d'hommes en population générale. Donc ils ont été étonnés parce que voilà, pour eux c'était toujours la guerre ou la violence extrême, les gangs, etc. Et du coup, la conclusion qui a été donnée, ça a été de dire, bah oui, c'est normal, hein, ce sont des femmes, donc elles sont fragiles, elles sont sensibles, elles estiment que, elles ont l'impression qu'il y a des violences là où il n'y en a pas, enfin, c'est toujours les mêmes stéréotypes. Et alors que, bien entendu, justement, les violences sexuelles qui sont les plus grands pourvoyeurs de troubles psychotraumatiques, les femmes les subissaient bien plus, bien entendu, que les hommes. Donc, c'était normal qu'on ait ces chiffres-là. Et il a fallu vraiment longtemps avant qu'on sorte de cette idée très sexiste les femmes, elles avaient des troubles mentaux beaucoup plus que les hommes, hein, comme la dépression, par exemple, mais que c'était lié à leur constitution, au fait que... Voilà,
à leur essence.
On
y reviendra d'ailleurs quand on parlera plus précisément de l'enquête, parce qu'il y a des questions qui portent sur ces représentations. Est-ce que tu peux, pour nos auditrices et auditeurs, redire un peu les symptômes qui caractérisent le stress post-traumatique?
Oui. Alors,
y compris que c'est un ensemble de symptômes, que tout le monde n'a pas tous les symptômes.
Oui, bien sûr. Alors, d'abord, déjà, normalement, on n'emploie plus le terme état de stress post-traumatique parce que c'était extrêmement réducteur. On parle de troubles de stress post-traumatique. Donc, on englobe beaucoup plus l'ensemble des symptômes maintenant.
Y compris l'état, ça veut dire que c'est comme ça, ça ne va pas bouger, que les troubles, on peut penser qu'on peut les...
Oui.
Peut bouger.
Et puis surtout, ça englobe une grosse partie de troubles qui faisait qu'on minimisait énormément l'impact psychotraumatique chez les victimes. C'est-à-dire que beaucoup de victimes qui étaient considérées comme n'étant pas traumatisées étaient extrêmement traumatisées, en fait, avec cette définition. Donc la première définition en 1980, celle auquel j'ai eu accès, moi, au début, dans le cadre de mes études, c'était sur trois items que la définition reposait. C'était sur tout ce qui était flashback, réminiscence, cauchemar, la mémoire traumatique, le fait de revivre à l'identique les violences comme une machine à remonter le temps et comme une torture, en fait, où on revit les choses.
Ça peut être soit en rêve, soit dans la réalité.
Voilà. Et puis aussi, ça peut être dans la tête, mais ça peut être aussi dans le corps, avec des symptômes, avec des sensations, avec des impressions, avec des hallucinations aussi. Ce qui fait que beaucoup de victimes traumatisées se retrouvaient avec des diagnostics de psychose. De ce fait-là, alors que c'était simplement un revécu. Et puis, le deuxième symptôme, c'était les conduites d'évitement et de contrôle. C'est-à-dire que pour pouvoir éviter cette mémoire traumatique, il fallait absolument ne plus bouger, en quelque sorte. La vie devenait interminée parce que le moindre lien qui évoquait les violences déclenchait cette mémoire traumatique et faisait qu'on revivait l'horreur avec vraiment une situation de sensation de mort imminente, de détresse totale, de désespoir absolu, avec des gens qui pouvaient aller bien comme ça et d'une minute à l'autre pouvoir plonger dans un désespoir total, quoi.
Et ça veut dire, par exemple, si on a été violé dans un espace avec des couleurs rouges, sitôt qu'on voit du rouge, ça fait un flashback, quoi.
Un flashback, ça peut être le sang aussi, mais ça peut être un cri, ça peut être un bruit, ça peut être une sensation, une douleur, une odeur, un lieu, effectivement, une personne qui ressemble à l'agresseur,
une silhouette, un geste.
Voilà, un geste, enfin, énormément de choses, de situations, de ressentis, qui sont en lien. Ça peut être il pleut, parce qu'il pleuvait ce jour-là, ça peut être le mardi, parce que c'était le mardi que ça s'est passé, le mois de juin, plein de choses.
On ne peut pas le prévoir à l'avance. Personne, en plus, développe sans doute des réactions particulières.
Puis c'est très difficile. Parfois, c'est évident parce que la situation, parce que, on regarde un film et puis d'un seul coup, il y a une scène de violence sexuelle et on revit les choses. Là, le lien, il est évident. Mais si c'est un lien lié à un espace temporo-spatial, c'est pas forcément évident de se dire, j'ai une patiente qui avait été violée à l'âge de 7 ans contre un réfrigérateur, et je veux dire, elle ne pouvait pas supporter les réfrigérateurs. C'est-à-dire, aussitôt qu'elle rentrait dans une cuisine, elle faisait une attaque de panique. Elle n'avait pas de réfrigérateur chez elle, mais elle n'avait pas fait le lien. Ouais. C'est pas si évident que ça. Une fois qu'on dit, mais le réfrigérateur, il y a quelque chose forcément là, qui explique. Ça devient évident. Mais, ouais. Mais tant que les gens ne connaissent pas le principe de la mémoire traumatique et comment ça s'allume, c'est très difficile. Alors, les gens vont mettre en place des conduites phobiques, obsessionnelles, d'évitement. Par exemple, le fait de se laver continuellement les mains quand on a subi des violences sexuelles, c'est vraiment le fait d'avoir les doigts qui collent ou qui ont une odeur et tout ça, c'est insupportable parce que ça rappelle des odeurs corporelles, des sensations, des choses dégoûtantes qui collent. Et donc, du coup, se laver. Enfin, au contraire, si on a été violé dans une salle de bain, on peut pas se laver. Donc, les gens vont développer des stratégies pour essayer de faire en sorte que cette mémoire traumatique ne s'allume pas. Des stratégies qui peuvent être très conscientes, hein, parce qu'elles savent qu'il ne faut pas aller dans cet endroit-là parce que ça rappelle, mais plein d'autres stratégies pour lesquelles elles ne font pas de lien. Et donc, que l'on étiquette comme des phobies ou des obsessions, comme des troubles comme ça qui viendraient d'on ne sait où, alors que ça se décrypte parfaitement. Et le troisième symptôme de l'état de stress post-traumatique, l'hypervigilance et l'hyper-réactivité neurovégétative, le fait d'être tout le temps en ayant l'impression d'être en danger perpétuel, en état d'alerte continuel, à ne pas pouvoir dormir, ça entraîne aussi des troubles alimentaires qui peuvent être aussi liés aux violences, mais qui peuvent être aussi liés à cette hypervigilance, dans un état de fatigue extrême, de douleur chronique pas possible, d'hyper-réactivité au stress, avec des sursauts, et puis du coup des conséquences très lourdes à cause de ce stress aussi dans la vie de tous les jours. Ça, c'était les premiers symptômes. Le problème, c'est que ces symptômes avec après des conséquences comme la dépression, les troubles anxieux généralisés, enfin plein de conséquences. Le problème, c'est que était oublié dans tous ces symptômes l'aspect dissociation. C'est-à-dire que c'est un élément très très important du trauma, et c'est ce que j'ai beaucoup développé moi. J'ai développé, disons, mon apport en quelque sorte, c'était déjà d'informer les gens sur ce qu'était la mémoire traumatique et d'aller plus loin dans sa description, en disant que la mémoire traumatique ne contient pas seulement ce qui est arrivé à la victime, mais elle contient aussi l'agresseur, sa violence, sa haine, son excitation perverse, ses mots, ses phrases, etc. Et que tout ça, ça donne à la victime l'impression que ça lui appartient, comme si elle était elle-même un monstre ou comme si elle s'attaquait continuellement, se torturait, alors que c'est la mémoire traumatique de l'agresseur. Donc ça, c'est mon apport. Et puis mon apport, ça a été vraiment de vraiment mettre le focus sur la dissociation traumatique, qui est une anesthésie émotionnelle qui se produit au moment des violences pour survivre, et qui, du coup, fait que les victimes qui sont les plus dissociées, c'est-à-dire que les plus traumatisées, et surtout qui continuent à être en danger, ce qui est très fréquent, ne vont pas être identifiés comme ayant un état de stress post-traumatique. Parce que quand on est dissocié, on a une anesthésie sensorielle, émotionnelle, physique, qui fait que la mémoire traumatique n'est pas du tout évidente. Les gens ne vont pas se plaindre. Ils ont l'air complètement déconnectés, désaffectivés. On a l'impression que bon bah, si ça n'a pas l'air d'aller trop mal, ou ils sont un peu bizarres, ça ne les a pas touchés, ça ne va pas si mal. Et que du coup, cette dissociation traumatique nuit aux victimes. Et puis, c'est elle aussi qui fait qu'elles sont ciblées pour subir à nouveau des violences. Ça fait aussi que quand elles disent qu'il leur est arrivé, personne ne les croit, ou personne ne les entend, ou tout le monde considère que ce n'est pas si grave, puisqu'elles en parlent de façon distanciée, déconnectée, voire qu'elles sont débiles, de même pas se rendre compte que c'est grave. Et puis ça, c'est aussi une source de maltraitance, parce que quelqu'un dissocié, vous lui faites, vous hurlez dessus et tout ça, elle ne réagit pas, vous pouvez y aller, quoi. Enfin, c'est un punching ball, quoi, une personne dissociée. Donc, et ça entraîne une amnésie traumatique, c'est-à-dire que le fait d'avoir une anesthésie émotionnelle fait qu'on a beaucoup plus de mal à récupérer nos souvenirs, qui sont des souvenirs toujours connotés émotionnellement. On se rappelle des choses parce qu'elles ont été, elles ont eu une émotion, elles ont été très émotionnelles. Donc avec cette fameuse amnésie traumatique, on y reviendra peut-être. Donc toutes ces personnes-là passaient à l'as. Et puis on ne comprenait pas aussi un autre élément qui est essentiel, c'est toutes les conduites à risque et les mises en danger, qui sont des conduites dissociantes pour s'anesthésier. Et que là aussi, on avait des jugements très négatifs et une incompréhension totale par rapport à des symptômes qui s'expliquent parfaitement pour essayer d'échapper à cette mémoire traumatique pour absolument l'anesthésier. C'est-à-dire que soit on essaye de l'éviter, soit on essaye de l'anesthésier. Donc c'est là où les choses ont commencé vraiment à bouger.
C'est une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits, assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs. Ils s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison, depuis ce crime, n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. Avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi. moi je dis ce que je dois.
Radio Libertaire 89.4, nous venons d'entendre Anne Sylvestre, hein, Douce Maison. Évidemment, ce n'est pas l'histoire d'une maison, ça pourrait être l'histoire d'une maison, mais c'est surtout l'histoire d'un viol, de la violence du viol.
De Cromu Ménage Féministe, en ce 28 juin 2022, nous sommes en compagnie de Muriel Salmonac, qui est présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Vous pouvez retrouver tout ce que Muriel explique oralement dans l'émission dans le site de l'association mémoiretraumatique.org où il y a beaucoup de publications et d'articles qui permettent de comprendre ce qu'est la mémoire traumatique, tous les termes qu'elle a utilisés, la sidération, la dissociation, l'hypervigilance, etc. Tous ces termes-là sont expliqués de façon très détaillée et ça vous permet de mettre des mots sur ce que vous vivez, soit vous-même, soit un ou une de vos proches. Et ça va vous aider, j'espère, à comprendre mieux la situation. Après ce tableau très difficile de toutes ces violences, des conséquences que ça a pour les victimes, je voudrais que tu évoques un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour elles. Et qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as construit comme type de thérapie pour les aider?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que longtemps, on a considéré que les troubles psychotraumatiques, c'était uniquement psychologique. Maintenant, on sait que c'est des blessures neurologiques, c'est-à-dire que c'est des atteintes neurologiques importantes au moment des violences et du stress extrême et de cette disjonction-là qui va anesthésier la personne pour lui permettre de survivre, que tout ça, c'est visible sur des IRM avec des atteintes neurologiques qui peuvent être très importantes, hein, jusqu'à 30% du volume de certaines structures essentielles comme l'hippocampe. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est comme pour les os qui se cassent, l'organisme est bien fait, ça se répare, ça peut se réparer. Mais ça peut se réparer qu'à certaines conditions qui sont d'être protégées, ce qui est malheureusement très rarement le cas pour les victimes qui subissent tout le temps des violences.
Si je reprends le parallèle avec la fracture, finalement, quand on a une fracture, on se protège avec un plâtre ou une attelle. Oui. Et là, c'est pareil.
Mais c'est pareil, il faut protéger. Et avant de protéger, il faut réduire en même temps, en quelque sorte, il faut réduire la fracture aussi. Quand la fracture est déplacée. Là, c'est un peu comme s'il y avait plein de fractures déplacées dans le cerveau. Et pour réduire la fracture, c'est la psychothérapie, c'est la prise en charge pour remettre du sens, redonner du sens et faire en sorte que cette mémoire traumatique, qui est une mémoire qui a été piégée au moment des violences, puisse être intégrée comme toute mémoire en mémoire autobiographique. C'est-à-dire qu'on a subi des horreurs, on a subi des viols, mais on ne les revit pas à l'identique. On sait qu'on les a subis, on peut pleurer parce qu'on les a subis, mais on n'est pas en train de nouveau plus pouvoir respirer, d'avoir l'impression qu'on va mourir, d'être dans un état atroce au moment des violences.
Et ça, si on reprend l'exemple de la petite fille de 7 ans qui a été violée près d'un frigo, du coup, comment on fait?
Par exemple, sur cet exemple-là, on met des liens, on redonne du sens. C'est-à-dire que le fait d'identifier que ce symptôme-là, c'est lié au fait qu'elle était le dos contre un frigo, ça permet déjà de comprendre ce symptôme-là et de le désamorcer au moment où il arrive. De le recontextualiser. Ça permet de recontextualiser. En fait, ce qui entraîne tout le trauma, c'est le non-sens. Et l'agresseur, lui, il est le maître pour créer quelque chose qui n'a aucun sens, qui est inhumain, qui n'a pas d'explication et qui met la victime dans un état justement de sidération totale, d'impossibilité de penser les choses. Et nous, tout notre travail, ça va être de les penser, de les remettre à l'endroit, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on a des symptômes, pourquoi. Donc on va décrypter. En comprenant ces symptômes, on comprend aussi ce qui s'est passé. On va comprendre aussi, au travers des symptômes, ce qu'a fait l'agresseur, comment il a agi, pourquoi il a... Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a voulu créer comme blessure, comme atteinte, comme désespoir. Et tout ça, on va le remettre à l'endroit. On essaie aussi de faire en sorte que ce qui appartient à l'agresseur soit identifié comme appartenant à l'agresseur. Cette violence extrême que j'ai, c'est pas ma violence, c'est celle de l'agresseur. Ce mépris que je ressens de temps en temps pour moi, c'est pas mon mépris à moi, c'est le mépris qu'avait l'agresseur sur moi. L'impression que je ne vaux rien, c'est l'agresseur qui m'a fait qui a mis en scène que je ne valais rien. Cette excitation perverse, c'est pas la mienne, c'est celle de l'agresseur. Donc, et de pouvoir petit à petit se libérer de plein de pensées parasites qui colonisent l'esprit et qui du coup bloquent tout le système parce qu'elles sont incohérentes. Nous, on va mettre de la cohérence pour que tous les circuits refonctionnent. Tout comme on remet de la cohérence entre deux parties d'un os qui a été brisé, on va le reconstruire, on fait ça. Et à partir du moment où tout est l'un en face de l'autre, quoi, et cohérent, à ce moment-là, le tissu neurologique, les atteintes neurologiques très importantes qui ont eu lieu pendant les violences, se réparent. C'est-à-dire qu'il y a une neurogénèse et une neuroplasticité. Et donc, on peut récupérer. Et les conséquences psychotraumatiques, qui vont avoir de très lourdes conséquences sur la santé mentale, sur la santé physique à très long terme, souvent parfois toute la vie, peuvent être évitées. C'est-à-dire qu'on peut empêcher ça. Et puis si on n'a plus de mémoire traumatique, parce que la mémoire traumatique a enfin été intégrée, bah, il n'y a plus besoin de conduite d'évitement, plus besoin de conduite de contrôle, elles disparaissent d'elles-mêmes. Et puis les conduites dissociantes, on n'a plus besoin de s'anesthésier, puisque en fait on n'a plus cette sensation atroce qu'on essaie d'éviter à tout prix, dont on ne veut absolument pas, parce qu'effectivement, c'est l'horreur.
Ça doit être assez difficile quand même quand on a été victime d'essayer, finalement, le travail, ça consiste à comprendre la conduite de l'agresseur. Mm-hmm. C'est donc d'essayer de le comprendre lui alors que lui ne nous a pas compris.
Quoi. Ouais. Alors, c'est pas tout comment à fait, c'est, ça. Pas, c'est pas ça. C'est pas de frein. Comprendre ce qui s'est passé, c'est-à-dire comment l'agresseur agit, de comprendre sa stratégie. C'est pas de le comprendre lui, oui. C'est de comprendre sa stratégie. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a voulu faire, pourquoi il a dit telle chose, parce qu'il avait pour objet, par exemple, de sidérer la personne. Donc, il a menti et hontément, il a dit des horreurs uniquement pour sidérer. Mais il ne les pensait pas. Et que ces horreurs-là ont été intégrées dans la mémoire traumatique et ensuite sont tout le temps en train de revenir dans la tête des victimes. De pouvoir prendre ces idées-là, tu vaux rien, t'es rien, tu ne mérites pas de vivre, t'es un bout, t'es moins, enfin, t'es une salope, enfin, tous les trucs horribles qui peuvent être dits, tout ça, on le rend à l'agresseur et c'est mystification pour blesser, pour sidérer, pour exercer sa cruauté, mais ça ne nous appartient pas. Donc on petit à petit, on découvre ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. Il est beaucoup plus facile de gérer une souffrance qui est logique et cohérente que de les gérer une souffrance qui paraît complètement incohérente ou qui paraît, vous savez, par exemple pour les victimes, les violences qui reviennent, etc., ça peut entraîner ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, avoir peur de faire mal, avoir peur d'être responsable d'une catastrophe, avoir peur d'avoir des idées atroces sur un bébé, sur un enfant, etc., alors que en fait c'est simplement ce qu'a fait l'agresseur qui revient en tête. Ça ne nous appartient pas. Donc on libère les personnes de tout ça. Et ça, c'est énorme. C'est déjà énorme. Et puis on rend tout cohérent. Et à partir du moment où tout est cohérent, la machine intégrer la mémoire se met en marche. Et du coup, tout peut fonctionner. Et du coup, tout devient une mémoire, comme je disais, autobiographique. C'est une mémoire normale, qui est douloureuse, qui est révoltante, tout ce qu'on veut, mais qui ne détruit pas.
La douleur de l'acte reste, mais en fait, ses conséquences peuvent être...
Toutes les conséquences peuvent être... Et puis du coup, ça permet à la victime d'avoir une estime de soi, de récupérer une estime de soi. Parce que là, dans toutes les enquêtes qu'on a faites, c'est vraiment la totalité des victimes ont une estime de soi catastrophique. Mais c'est logique, puisque l'agresseur les a réduites à l'état d'objet. L'agresseur les a méprisées, leur a retiré toute dignité, enfin, à essayer d'atteindre leur dignité. Donc, c'est assez logique.
Est-ce que les psychothérapeutes, psychologues, psychiatres formés à ce type de thérapie sont nombreux?
Alors, ça c'est une catastrophe.
Pas un nombre suffisant.
Voilà, ça c'est pour ça que je me bats, parce que on sait que avoir subi des violences, particulièrement dès l'enfance, chez les femmes, il y a un continuum de violences. Les violences sexuelles démarrent très tôt. 80% des violences sont commises avant 18 ans, 50% avant 11 ans et 25% avant 6 ans. Donc c'est très jeune. Et chez les femmes, avoir subi des violences sexuelles et physiques, par exemple dans l'enfance, multiplie par 19 le risque de subir des violences conjugales et sexuelles à l'âge adulte. Chez les hommes, c'est l'inverse. Avoir subi des violences sexuelles et physiques dans l'enfance multiplie par 14 le risque de commettre des violences. Mais on verra peut-être pourquoi. Mais en tout cas, tout ça, on peut bloquer tout ça. Mais toutes ces conséquences très importantes peuvent être évitées. On sait que le soin, ça marche, c'est efficace. Tout ça, on le sait très bien depuis 20 ans. On connaît tout ça. Depuis 10 ans, l'OMS dit que c'est un problème de santé publique majeur. Mais les médecins ne sont pas formés. Ni en initial, ni en continu. Les psychiatres ne sont pas formés au psychotrauma. Ils sont à peine formés sur les violences, mais pas du tout sur le psychotrauma. Donc en fait, on est dans une société patriarcale, dominante, dont la domination repose sur la violence, qui refuse de soigner les victimes, et pour cause. Parce que refuser de soigner les victimes, c'est tout bénef. Parce que je veux dire, on a des victimes à l'appel, c'est-à-dire qu'on a des cibles à l'appel. Je veux dire, on peut continuer, parce que subir des violences, ça augmente les inégalités, ça augmente la précarité, ça augmente tout ce qui est handicap aussi. Enfin, les violences s'exercent toujours dans le cadre d'une relation inégalitaire sur des personnes en situation soit d'infériorité ou en situation de discrimination et de vulnérabilité. Et tout ça alimente ces situations d'inégalité. Donc c'est un système. Donc en fait, il s'agit de nier toutes les conséquences, de nier, de ne surtout pas permettre aux victimes de comprendre déjà ce qui leur arrive, de pouvoir se soigner. Les agresseurs comptent bien sur l'amnésie traumatique. C'est pour ça qu'il y a autant de pseudo-controverses sur l'amnésie traumatique, parce que eux, tout leur système repose sur l'amnésie traumatique.
Ils ont intérêt que ça continue.
Donc il ne faut surtout pas sortir les victimes de la dissociation. Il faut qu'on continue à les juger négativement, continue à les culpabiliser, continue à les recycler dans les hôpitaux psychiatriques. Avant, c'était dans les couvents, dans les, en tant qu'SDF,
dans la rue,
partout, enfin, dans les institutions, etc.
Personnes prostituées aussi, donc, beaucoup de personnes prostituées.
Bien entendu, quand vous êtes dissocié, que vous avez 14 ans, que vous avez subi l'inceste, que vous êtes complètement déconnecté, complètement dissocié, vous êtes la cible parfaite pour les proxénètes. Vous allez pouvoir subir tout sans rien dire. Donc les clients, ils adorent ça. Donc tous ces systèmes de recyclage, on veut que ça continue à fonctionner. Donc il s'agit surtout, parce que c'est franchement, c'est scandaleux et c'est fou. C'est absolument incompréhensible. Alors qu'on a tous les éléments, tous les outils, on a toutes les données, qui est une sorte d'anti-épistémologie totale pour nier toute cette réalité. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, une intentionnalité de la nier. Et la médecine est un domaine où la domination masculine a été hyper présent, domaine quand même très dominant, et où, du coup, tout est bloqué. Mais c'est fou.
Mais c'est aussi parce que toutes les sociétés, à ce jour et depuis longtemps, sont construites aussi sur des rapports de domination et qu'il faut qu'ils continuent, sinon les tenants du pouvoir vont le perdre.
Voilà. Et du coup, là, on vient enrayer ce système-là. Parce que effectivement, si on soigne, si on prend en charge les victimes, on enraye non seulement une quantité de victimes disponibles, mais on enraye aussi de nos très nombreux agresseurs disponibles. Parce que
ils auront moins de cibles, ils auront
Pour être très 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 rapide, on n'est jamais responsable des violences qu'on a subies. On n'est pas responsable des conséquences psychotraumatiques des violences, mais on a une responsabilité sur comment on les gère ces conséquences psychotraumatiques. Et dans le cadre des conduites dissociantes, gérer des conséquences en étant violent contre soi pour créer une anesthésie émotionnelle, pour recréer une situation de stress qui déconnecte, ça c'est une chose. Mais les gérer en portant atteinte à autrui, en imposant à autrui de faire les conduites d'évitement et de contrôle à sa place. Vous savez, comme les patriarches familiaux, faut pas rire, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Et puis, de tomber sur les autres pour exercer de la violence, pour s'anesthésier, ça, on n'a pas le droit. Enfin, je veux dire. Donc, mais si on traite les enfants qui ont une mémoire traumatique, si on les dépiste, si on les protège, si on les secourt, si on les traite, je veux dire, le système, il est plus alimenté.
Il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Il y a
des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour les bêtises comme des enfants, mais pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout, c'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous, comme une éclaboussure debout. Rien, non, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment,
donc toujours en compagnie de Muriel Salmona, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Je souhaiterais qu'on aborde maintenant l'enquête qui a été faite fin 2021 et dont les résultats ont été publiés tout début de l'année 2022. Une enquête qui s'appelle « Présentation des résultats de l'enquête, les Français, les Françaises et les représentations sur les violences sexuelles ».
Du coup, là, ce qu'on voulait voir, c'était un petit peu comment les choses évoluaient. On fait une sorte de baromètre qu'on va continuer, on va essayer de le continuer. Et c'est vrai qu'en 2019, on avait été un petit peu effondré parce qu'avec MeToo, en fait, tout s'était plutôt aggravé. C'est-à-dire les stéréotypes sexistes, tout ce qui était de l'ordre de la culture du viol, s'était aggravé avec MeToo. Particulièrement le fait de penser que les femmes sont coupables, responsables de ce qui leur arrive, qu'elles mentent aussi, qu'il est habituel qu'elles mentent. Près de 40% de gens le pensent quand même. Près de 40%, je pense que si elles ont une mini-jupe, si elles ont eu une attitude prétendument provocante, si elles vont chez un homme et tout ça, enfin, je veux dire, bah,
c'est de leur faute.
C'est de leur faute et ça dédouane l'agresseur. Enfin, donc on avait comme ça des stéréotypes à la fois sexistes sur une représentation de la sexualité, qui est une représentation sur la sexualité violente et dominante, et puis sur toute cette culpabilité qu'on fait peser sur la victime. Donc ça s'était plutôt aggravé. En 2022, ça s'est plutôt amélioré, un tout petit peu amélioré, c'est-à-dire que au moins le MeToo Inceste apparemment a eu un impact, parce que déjà c'était en France, donc je pense que ça a eu un impact un peu plus important sur les représentations. Et puis, oui, juste, j'ai quelque chose de vraiment intéressant sur 2019 qui était vraiment incroyable. C'est que tout s'était aggravé, mais en revanche, la connaissance que les gens avaient sur le viol et sur les conséquences psychotraumatiques du viol était très bonne.
C'était amélioré.
Ouais, mais non. Ça veut dire que malgré cette connaissance-là, ils continuaient à être attachés, en quelque sorte, à leur représentation sexiste et à la culture du viol. C'est-à-dire que c'est une telle propagande, c'est un peu comme le racisme. On a tous les éléments pour ne plus être raciste, en quelque sorte.
Oui.
Il
n'y
a pas une question de méconnaissance et tout ça. Enfin, je veux dire, voilà, ou sexiste. Mais malgré tout, on continue à l'être parce qu'il y a une propagande qui est telle que toutes ces phrases qui sont des phrases hyper violentes, les phrases sexistes, hein, la culture du viol, c'est tellement violent, c'est tellement injuste que ça devient une mémoire traumatique.
Mais
et les gens l'ont en tête.
C'est aussi tellement tout le temps.
Oui, c'est ça. Et du coup, c'est une propagande. C'est vraiment une propagande. C'est comme Radio Mille Collines, Rwanda. Ouais. Je veux dire. Et du coup, les gens spontanément ont ces réponses-là. Alors que par ailleurs, ils peuvent spontanément dire que si une femme ne se débat pas et ne dit pas non, ou elle se débat pas, c'est pas vraiment un viol et ça dédouane l'agresseur. Et par ailleurs, savoir très bien ce que c'est que la sidération et la dissociation. Truc de dingue, vraiment. Voilà. Et donc avec le 2022, tout s'est un peu amélioré, sauf chez les jeunes de 18 à 24 ans, là où on a fait un focus.
Ça, c'est la question la plus inquiétante, en fait. Hein, c'est que les jeunes, aujourd'hui, ont une vision très stéréotypée de la sexualité, violente. Et violente dans le sens où c'est toujours les hommes qui dominent les femmes,
voilà.
Qui leur imposent des relations, qui leur imposent ce type de relations en fonction de ce qu'ils ont vu. En fait,
voilà, avec une culture du viol très très développée.
Dans la pornographie,
ils sont plus de 50% à considérer que la pornographie, c'est une façon de faire son éducation sexuelle. Or, on sait que le visionnage de pornographie violente, des représentations violentes de la sexualité, ça multiplie par 24 le risque d'avoir une représentation stéréotypée très, très sexiste et de comportements violents vis-à-vis des femmes. Ça alimente la haine des femmes. Ça alimente une érotisation de la violence et de la haine des femmes. Et là, on voit que c'est spécifique aux 18-24 ans. C'est-à-dire, tous les autres, ça a plutôt tendance à s'améliorer. Alors, sauf chez les plus âgés, les représentations hommes-femmes, sexualité hommes-femmes, ça reste très, très sur le fait que le désir des hommes, voilà, c'est comme ceci, que cela. Enfin bon, ça reste. Mais sinon, dans l'ensemble, tout s'améliore un peu, sauf chez les jeunes. Et ça correspond bien, hein, puisque l'avènement des smartphones, c'est 2010. Hein. Du coup, c'est vraiment tous les jeunes qui ont été très exposés à tout ce qui est la pornographie sur le net, hein, avec ce que ça représente comme... Enfin, c'est plus que Google en entier, la pornographie sur le net. Et on sait que dans le cas de la pornographie, c'est vraiment là, les procès qui sont en cours grâce aux ailes féminisme, à vos effrontés, etc. C'est que... il y a énormément de vidéos de viol, de vidéos de revenge porn et de vidéos de pédocriminalité sur tous ces grands sites pornographiques. Donc c'est très facile d'accès. Voilà.
C'est énorme en quantité d'images.
Voilà. Et la pédocriminalité, elle est exponentielle. C'est-à-dire que chaque année, ça se multiplie par deux, le nombre de sites qui sont identifiés, d'images et de vidéos se multiplie par deux. On est à plus de 80 millions d'images et de vidéos qui ont été recensées de pédocriminalité. Des actes horribles, quoi. L'âge moyen des enfants, c'est 10 ans.
C'est 80% de filles. Vous commencez à regarder des enfants qui sont dans les films ou qui
dans
regardent
les films.
Dans les films.
Dans les films. Ouais. Là, je parle de la pédocriminalité.
Oui.
Et du
coup, ces enfants, ils sont victimes de violences. Qui s'occupent d'eux? Comment ça se fait qu'on leur fait subir ces violences?
C'est à la maison. C'est des incestes. Moi, toutes mes patientes... que je vois mes petites patientes, mes jeunes patientes qui ont subi des incestes, maintenant, c'était pas le cas avant. Hein. Mais maintenant, si je leur pose la question, est-ce qu'on t'a filmé, est-ce qu'on t'a photographié? Oui.
Toujours.
Toujours.
En plus, non seulement la violence, mais en plus
donc,
le regard sur
coup,
la violence.
On sait que cette violence-là est hyper addictive, hein, cette violence extrême, très cruelle, très humaine, est hyper addictive. Donc, de toute façon, il y a de plus en plus d'enfants qui sont en danger. Et alors, du coup, les enfants qui se retrouvent donc photographiés et filmés, c'est les enfants à l'intérieur de la famille, dans des institutions, c'est les petits voisins, c'est les enfants auxquels on a accès. Donc, les enfants sont de plus en plus en danger, ce qui explique pourquoi les chiffres aussi explosent de violences sexuelles chez les enfants. Ça augmente. Et c'est complètement lié.
Et si on ne fait rien, ça va encore augmenter.
Oui, parce que je veux dire, c'est énorme. Et la France est un très, très mauvais élève. La France, on est le troisième pays au monde en nombre de sites pédocriminels sur le net et en nombre d'utilisateurs de ces sites.
Et les deux autres qui sont devant nous, c'est qui?
C'est les États-Unis et la Hollande.
D'accord.
Et
donc, si vous voulez des enfants, allez plutôt vivre ailleurs.
Ouais. Et 17, il y a seulement 17 personnes dans la brigade qui est censée vraiment travailler sur ce thème-là. Donc voilà. Donc
quel recours on a effectivement contre ces sites? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors les recours, on est en train de les mettre en place. C'est-à-dire qu'il y avait déjà Pornhub avec une immense, comment on appelle ça, pétition. Et puis il y a eu un mouvement général international pour que Pornhub contrôle
les
contenus. Donc ils ont supprimé d'un seul coup.
Qui est que de la pornographie entre adultes, on va dire.
Voilà.
Et ils ont. Ce qui n'est pas terrible quand même.
Non, et puis qu'il n'y ait plus de revenge porn, qu'il n'y ait plus de vidéos qui sont intimes, et de viols filmés, bien entendu, et de pédocriminalité. Donc ils ont supprimé, d'un seul coup, ils ont supprimé la moitié de leurs vidéos Pornhub. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Donc on est en train de les attaquer en justice sur le fait qu'ils ne font pas le job là-dessus. Après, il y a bien entendu le fait que les enfants, maintenant, il y a un tiers des enfants qui, à l'âge de 12 ans, ont déjà vu des vidéos porno. Donc, c'est la responsabilité aussi de tout le monde, de tous les adultes, pour qu'ils aient pas accès à ces sites-là. Et que les sites aussi fassent en sorte qu'il y ait des sécurités très importante pour que les enfants ne puissent plus. L'idéal, c'est que toute cette pornographie. Là, ça représente un chiffre d'affaires, mais monstrueux. Et la pédocriminalité, ça commence à être un chiffre d'affaires extraordinaire, quoi.
Et comme en plus, jusqu'à ce jour, ça n'a pas été puni, c'est tout bénef.
Voilà, donc l'impunité. Alors déjà, là, en termes d'impunité, là, il y a une impunité totale. Jusqu'à maintenant, ça commence à changer. Donc, avec là, des sites qui arrivent devant la justice. Dans le cadre des violences sexuelles, l'impunité, elle est totale, hein, puisque sur des viols, que ce soit des viols d'enfants ou des viols d'adultes, les enfants sont les premières victimes de viols dans l'ensemble. Il y a 74%, il y a seulement moins de 10% de plaintes sur l'ensemble. Et sur ces plaintes-là, il y en a 74% de plaintes qui sont classées sans suite et seulement 10% qui vont être jugées. Donc ça fait moins de 1% de l'ensemble des viols. Donc on est dans une impunité totale. Donc il faut bouger, il faut vraiment surveiller. Et alors là, si on a un conseil à donner, c'est pour tous les parents, c'est de tout le temps poser la question aux enfants. Est-ce que t'as pas vu quelque chose qui t'a choqué? Est-ce que t'as pas... Enfin, il faut absolument suivre de très près
échanger,
ce qui se passe. Et puis, bien entendu, faire un dépistage systématique sur les violences sexuelles. Parce que, juste un tout petit exemple, où j'avais une jeune femme que je suivais depuis longtemps parce qu'elle avait subi un inceste qui m'amène ses deux petites filles... qui ont 8 et 11 ans, pour que j'explique ce qui lui est arrivé à elle, parce qu'elle n'arrivait pas à le dire, et elle voulait absolument pouvoir parler. Donc je les vois, les petites, et puis moi, je leur pose la question. Enfin, je leur explique, et je dis, mais toi, il t'est pas arrivé quelque chose? Et bah oui, il leur est arrivé quelque chose. Oui, alors que la mère était super attentive.
Elle leur avait jamais posé la question?
Non. Mais parce que justement c'était trop douloureux pour elle, etc. Et l'une c'était dans une colonie scolaire et l'autre c'était dans une activité sportive. Voilà, des agressions sexuelles. C'est-à-dire mais il faut poser la question tout le temps, en tout cas dans le dépistage systématique. Parce que si on pose la question, du coup on fait pression aussi sur les agresseurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tranquilles, c'est-à-dire on les voit. Même si la justice ne suit pas, on les voit.
On
sait qu'ils existent et ils ne peuvent pas agir tranquillement. Et même une enfant qui est complètement dissociée, si on lui pose la question, elle peut répondre.
Sur cette enquête, il y a eu aussi des questions qui étaient, de mon point de vue, très intéressantes. C'est tout ce qui concernait ce que c'est vraiment un viol. Mm-hmm. Parce que je trouve que ça, c'est une question intéressante parce que pour savoir de quoi on parle,
oui.
Y compris il y a aussi beaucoup de stéréotypes et de clichés qui circulent sur le sujet, à savoir que les femmes aiment être forcées.
Oui.
Bon,
une femme qui dit non, ça veut dire oui.
Oui, voilà, enfin tous ces trucs-là. Et donc du coup, comment dans l'enquête, comment ça ressort ces questions?
Ah bah là, on voit que c'est... Alors ça s'est un petit peu amélioré quand même sur la notion de viol. Chez les 18-24 ans, c'est une catastrophe.
Ça ne s'améliore pas, ça s'aggrave.
Ça ne s'améliore pas du tout, ça s'aggrave. Ils sont vraiment nombreux à avoir ces images-là. Et particulièrement pour les 18-24 ans, c'est sur les femmes aiment être forcées ou subir des violences. Une femme qui dit non, ça veut dire oui. Et puis, un acte sexuel avec une femme qui est alcoolisée, etc., ce n'est pas un viol. Voilà, donc la notion de consentement, elle est compliquée.
Elle est loin d'être acquise.
Voilà. Donc, et puis on s'aperçoit aussi que les gens, ils sont complètement paumés aussi par rapport à la définition, qu'il n'y a pas suffisamment d'informations par rapport au seuil d'âge qu'on a fini par obtenir après maintes et maintes batailles. Je veux dire, c'est fou. La plupart des gens n'ont pas su répondre au seuil d'âge. Les seuils d'âge qu'on a obtenus à force du poignet, là, le 21 avril de 2021.
Seuils d'âge qui sont de 15 ans.
De 15 ans.
Pour les viols et de 18 ans pour les incestes.
Pour les viols incestueux. Les agressions, c'est pas que pour les viols, c'est agressions sexuelles et viols. Et ça, ils savent pas. Donc, or, c'est un élément important à avoir en tête quand même. On l'a obtenu en plus, ça, je dois être du non-consentement. Et
concrètement,
puis,
ça veut dire que un adulte qui a des relations sexuelles avec une personne qui a moins de 15 ans, un acte sexuel de moins de 15 ans, c'est interdit.
C'était déjà interdit. C'était déjà interdit, mais c'était pas systématiquement un viol ou une agression sexuelle.
C'était pas systématiquement reconnu comme tel par la justice, alors que maintenant, ça va. Voilà. Théoriquement, ça va l'être.
C'était de toute façon une atteinte sexuelle. C'est-à-dire que c'était déjà interdit qu'un adulte ait des actes sexuels avec un mineur de 15 ans. Mais on pouvait considérer que le mineur avait été consentant, qu'il n'y avait pas eu de violence, contrainte, menace ou surprise, et que s'il y avait eu pénétration, ce n'était pas un viol. C'est comme ça qu'on a eu deux petites filles de 11 ans qui ont subi des pénétrations par des hommes de 21 et 28 ans et qui ont été considérées comme consentantes. Et du coup, il y en a un qui avait été acquitté pour viol et l'autre qui avait été déqualifié, les faits avaient été déqualifiés en atteinte sexuelle. Ça avait fait à Pontoise, ça avait fait beaucoup de bruit.
À l'époque,
voilà. Donc c'est ça qu'on a obtenu. On a obtenu que maintenant, non seulement c'est interdit, mais c'est puni très fortement puisque c'est forcément une agression sexuelle et forcément un viol. Sauf que il y a eu une clause Roméo et Juliette, merci Dupond-Moretti, notre garde des Sceaux, qui dit qu'il faut qu'il y ait 5 ans de différence d'âge au moins. Ce qui fait qu'on a un truc, une sorte d'usine à gaz, où si la jeune a 13, 14, 15 ans, et si le jeune, lui, a 18, 19 ans, ça peut ne pas être considéré comme un viol. Et puis, pour l'inceste, on a aussi une clause qui fait que l'adulte doit avoir une autorité de fait ou une autorité de droit. Alors, ce qui fait que, par exemple, avec les frères, les cousins, les machins, on peut toujours considérer que ce n'est pas une autorité de fait ou de droit, même s'il y a une domination, bien entendu, évidente. Hein, et ça, malheureusement, voilà. Donc, on a eu des restrictions. On n'a pas pris en compte le handicap la vulnérabilité liée au handicap et puis l'âge mental des personnes en situation de handicap. Donc, elles ne bénéficient pas de ces seuils d'âge, du non-consentement. Parce que là, systématiquement, c'est déqualifié. Hein, un viol sur une personne handicapée, c'est systématiquement déqualifié. Donc, on a encore du... Et puis, il y a aussi un élément. On s'aperçoit que les gens ne connaissent pas non seulement la loi, mais ne connaissent pas les ressources, ne savent pas qu'il faut aller dans les 72 heures, par exemple, en cas de pénétration, de viol. Alors, juste entre parenthèses, c'est important, la définition du viol s'est améliorée. Avec déjà en 2018, c'était toute pénétration sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Donc ça, c'était important parce que c'était pas le cas auparavant. Ce qui fait que un homme qui fait une fellation à un garçon, à un enfant, c'est considéré comme un viol. Ça peut être considéré. Alors que non, avant, c'était une agression sexuelle. Et puis on a rajouté les actes bucco-génitaux.
Donc, les fellations, les cunnilingus.
Voilà, donc ça c'est des éléments importants. Mais alors tout ça, les gens aussi, ils sont perdus là-dessus, et sont perdus sur tout ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut garder comme preuve, comment porter plainte, les ressources, les numéros.
3919,
119, ils sont pas connus très peu, plateforme, et que là, ça montre bien que les pouvoirs publics ne font pas le job là-dessus.
Ils
ne donnent pas les informations.
Et ils ne font pas la prévention qu'il faudrait. Dans les outils de prévention, on va refaire une petite pause musicale avant de parler d'un outil de prévention que tu as conçu avec ton association. Mais dans la conclusion du communiqué de presse sur l'enquête qui vient d'être publiée, j'étais un petit peu étonné de ne rien voir de précis concernant la prévention, quand on pourrait agir en direction des violeurs.
Oui. Alors.
Potentiel ou
oui,
réel.
Oui. C'est dans les mesures que l'on donne par ailleurs, hein, dans toutes les mesures que l'on demande une prévention, en sachant que ce qui est essentiel, c'est le dépistage et c'est la protection des victimes qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut pas compter les violeurs. On n'y a pas accès. On a accès à 1% des violeurs, même pas. On peut avoir accès à l'ensemble des victimes. Donc l'effort monumental, et puis un violeur, la prise en charge d'un violeur qui a déjà une histoire de violeur en série, je veux dire, on n'a aucune garantie que les choses fonctionnent. Enfin, je veux dire, il faut le faire. Mais mettre, par exemple, autant d'argent dans la prévention, dans la prise en charge des agresseurs, qui est déjà mise en place. C'est-à-dire que les agresseurs ont plus accès à une prise en charge que les victimes.
Oui,
faut le
savoir.
Je ne
pensais pas à la prise en charge de violeurs, mais plutôt à la prévention. C'est-à-dire que comment on fait changer la présentation de ces messieurs sur leur sexualité, sur notre sexualité, relations.
Oui, ça c'est la prévention, mais c'est l'effort qu'on fait sur la prévention des violences sexuelles. Mmh. C'est-à-dire la prévention par rapport au consentement, par rapport à ce qu'est la sexualité, par rapport à la loi. C'est exactement tout ce qu'on disait jusque-là. Et puis, il y a un élément qui est quand même essentiel, c'est la lutte contre l'impunité, si on veut que les choses s'arrêtent. Et que l'impunité, elle est totale. Il faut qu'il y ait une imprescriptibilité, parce que, je veux dire, même si on a obtenu une augmentation des délais de prescription, c'est toujours pas suffisant avec la l'amnésie traumatique, etc. Et que, du coup, c'est le moyen, là aussi, de permettre aux victimes de parler, d'aller en justice et, du coup, d'identifier des agresseurs. Et puis c'est de mettre le paquet pour les preuves médico-légales. Enfin, nous, je me bats avec Denis Mukwege, qui est prix Nobel de la paix, qui s'occupe des viols de guerre, en situation de guerre, et on se bat pour qu'il y ait une prise en compte des psychotraumatismes comme preuve médico-légale. C'est-à-dire que le décryptage de la mémoire traumatique, des conduites de survie, peut nous donner énormément d'informations très très précises, un peu comme de la balistique, quoi. Voilà. Et que non seulement c'est pas utilisé, non seulement c'est jamais utilisé, mais en plus, tous les troubles psychotraumatiques qui sont des conséquences donc universelles, normales, habituelles des violences, sont retournés contre les victimes pour mettre en cause leur parole et leur légitimité. Donc ça, c'est une révolution à faire là-dessus. Et on essaie de la faire au niveau international. Donc on essaie de... Mais il faut bouger un peu sur tous les niveaux.
Les femmes sont toujours des menteuses, voilà. Et c'est les hommes qui disent la vérité.
Et puis la prise en charge, c'est une obligation. Enfin, la Convention d'Istanbul exige de tous les États qu'il y ait des centres d'accueil, de prise en charge en urgence de victimes de violences sexuelles et de prise en charge à moyen terme par bassin de 200 000 habitants. Un centre par bassin de 200 000 habitants.
Paris devrait y en avoir au moins 10.
Oui, voilà, mais on ne les a pas, on ne les a nulle part, ces centres. C'est une exigence. Les centres du psychotrauma, on a un par région. On avait fait le cahier des charges, on devait en avoir un par territoire de santé mentale, donc 100 en France. Les professionnels formés, on ne les a pas. Les victimes, elles n'ont pas où aller. Et je veux dire, ça, c'est une perte de chance énorme en termes de santé mentale, physique, parce que ça a plein de conséquences aussi au niveau somatique, et une énorme perte de chance aussi en termes de vie, de risque de précarité, de handicap, c'est effarant. Enfin,
c'est terrible.
Les gens qui sont au pouvoir sont vraiment incompétents.
C'est pas de l'incompétence, malheureusement.
Franchement, j'aimerais avoir le pouvoir et le garder.
Ils sont imposteurs. Dans l'ensemble, c'est de l'imposture. Mais là, il y a vraiment une volonté de rien faire. Il y a une volonté avec tous les plaidoyers que j'ai faits et toutes les auditions que j'ai faites, etc. À quel point j'ai tout donné, tous les éléments, etc. Et qu'ils n'en font rien. Et c'est intentionnel.
Oui.
C'est intentionnel.
Si de cada gota de sang versada per l'infant, si de chaque goutte de sang versée par un enfant brouillait une rosée, jaillissait un coquelicot, la terre pronte se deviendrait brillait, la terre ne serait plus bientôt qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule rouge, 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 rouge comme la vergogne, rouge comme la honte. Che devrien porpra les nostres cares, qui devrait empourprer nos visages. Si tinguesse mel courage, si nous avions le courage de mirar nos ben mirats, de nous regarder, de nous voir. Quand nous passons devant un miroir, quand nous passons devant un miroir, ah, si nous avions le courage de nous voir, si de cada gota de sang versade per l'infant, brouillez une roseille, la terre pronte se devindrie. Un énorme bole rouge, un énorme bole rouge, une énorme boule rouge.
Radio Libertaire 89.4 sur l'FM. Nous venons d'entendre une énorme boule rouge chantée en catalan par Serge Gerroyo. Si de chaque goutte de sang versée par un enfant jaillissait un coquelicot, la terre ne serait plus bientôt qu'une énorme boule rouge. Remue Méninges féministe jusqu'à 14h30 en votre compagnie.
Les paroles de cette chanson ont été écrites par Victor Simal, un ami qui est décédé le mois dernier et qui a lui-même subi de graves traumatismes parce qu'il a été emprisonné en Espagne en 78 à cause d'actes de solidarité avec les anarchistes espagnols qui luttaient contre l'après-franquisme et l'espèce de couvercle mis sur la mémoire, justement, de façon étatique pour ne pas revenir sur les crimes des franquistes contre les républicains espagnols pendant notamment la période 36-39. Et donc, salut Victor, je pense à toi souvent. Donc, toutes ces questions de violences sexistes et sexuelles qui sont subies par énormément d'enfants, de filles, de garçons, de plus en plus de garçons, j'ai l'impression.
Ouais.
Et notamment d'enfants en garçons.
Ouais. Les chiffres qui correspondent, enfin qui sont internationaux, mais qui correspondent parfaitement aussi à la France, c'est une fille sur 5 et un garçon sur 13 qui subit des violences sexuelles dans l'enfance, et un enfant sur 4 des violences physiques, un enfant sur 3 des violences psychologiques, et un enfant sur 6 des négligences graves. En sachant que ces chiffres sont sous-estimés. Très sous-estimé.
Et donc, que par ailleurs, un enfant peut subir tous les types de violences ou n'en subit qu'un type, etc. Donc, c'est un peu compliqué.
Voilà. Et l'accumulation de violences. Donc, c'est à peu près 25% d'enfants qui cumulent 4 formes de violences. Et l'accumulation de violence, c'est ça qui est le déterminant principal de la santé 50 ans après, et le premier facteur de risque de mourir précocement, de suicide, enfin bon, de troubles cardiovasculaires,
de cancer, de maladies,
bien entendu, tous les troubles mentaux liés au trauma, hein, bien entendu. Donc, non, les enfants, et l'enjeu, c'est protéger les enfants, c'est vraiment lutter contre la violence. Enfin, je veux dire, c'est protéger, secourir les enfants, les soigner quand ils ont des traumas, c'est vraiment œuvrer pour lutter contre la violence. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'il y ait un effort énorme qui soit fait de prévention, de protection, de prise en charge, de soins et de justice.
Et donc, tu viens de publier avec ton association une petite brochure qui s'appelle « Quand on te fait du mal, information sur les violences et leurs conséquences ». C'est un petit texte qui a été écrit par Sokhna Fall et toi et illustré par Claude Ponty. Tu peux nous présenter brièvement tes collaborateurs ?
Oui, alors Sokhna Fall est une fidèle d'entre les fidèles de l'association. Elle est vice-présidente de l'association depuis sa naissance, depuis qu'elle a été mise en place, cette association. Et puis, on travaille énormément ensemble et on a justement fait pas mal d'outils avec elle. Elle est ethnologue, victimologue, thérapeute. Hein. Voilà. Et Claude Ponty, je ne sais pas si on a besoin de le présenter, donc c'est un auteur qui fait des illustrations et qui fait des albums pour la jeunesse et qui a subi un inceste dans l'enfance. Hein. Et du coup, qui s'est créé tout un monde poétique, mais où la violence est toujours omniprésente. Elle n'est jamais effacée. Ni, voilà. Et du coup, j'ai eu l'idée parce que... Pour ce livret, on a une subvention d'un pays européen. Et,
tu peux nous dire lequel ? Parce que c'est honorable, ça, comme action.
C'est en Belgique.
Très bien. Merci, la Belgique.
Donc, on a eu cette subvention. Et du coup, j'ai pensé à Claude Ponty, parce que j'étais en lien avec lui. Et il a été enthousiaste. Et du coup, on l'a fait ensemble. Et le propos, c'était de parler, bien entendu, de toutes les formes de violence, de parler d'expliquer aux enfants de leurs droits. Mais c'était surtout aussi, parce que ça manquait énormément. Et d'ailleurs, on a vu que ça manquait parce que ça a eu un énorme succès. C'est toutes les conséquences justement des violences sur l'enfant et des psychotraumatismes. C'est la plupart des conséquences sur l'enfant, que ce soit la mémoire traumatique, les conduites d'évitement, de survie que l'enfant présente, sont souvent étiquetées beaucoup plus comme troubles du comportement, troubles évolutifs, voire pathologies psychiatriques, ou liées au fait que c'est un enfant difficile ou bizarre, mais sans que on identifie pour l'enfant que c'est normal. Enfin, vous savez, un enfant, par exemple, il se blesse, il saigne. La première fois qu'il se voit saigner, il a peur, il est angoissé. On lui explique que c'est normal, etc. On lui explique les choses. Et je veux dire, pour un enfant, avoir des troubles psychotraumatiques sans aucune explication, c'est atroce. Donc, on voulait donner tous ces outils-là aux plus petits. Parce qu'on avait d'autres brochures pour les adolescents, on avait des brochures pour les lycéens, pour les adultes, mais on n'avait pas de brochure pour les tout-petits. Et du coup, on s'est dit que les dessins de Claude Ponty seraient vraiment très utiles parce qu'il parle émotionnellement, il représente, et il a une façon de représenter la violence qui est sans phare, mais qui est accessible à tout le monde. Et il a eu une représentation aussi des troubles psychotraumatiques, les connaissant lui-même, qui sont aussi très, très efficaces.
Et on s'est aperçu... Ce que tu nous disais tout à l'heure hors antenne, d'ailleurs, c'est que finalement, cette brochure qui a été conçue pour les maternelles CP-CE1, donc des enfants de moins de 8 ans, en gros, il y a aussi beaucoup d'adultes qui les lisent et qui, au fond, se reconnaissent.
Reconnaissent
leur enfant... eux-mêmes enfants.
Oui,
en fait,
oui, hein. Oui, on a plein d'adultes qui nous disent, voilà, je l'ai pris, cette brochure pour mes enfants, mais en fait, moi, ça m'a marqué et ça a répondu à plein de choses, ça m'a fait énormément de bien. On s'aperçoit qu'il y a plein de gens aussi qui s'occupent, par exemple, de populations en situation de vulnérabilité, qui nous disent, mais c'est super pour toutes les personnes, ou les personnes en situation de handicap.
C'est pour tout le monde.
Et puis, tous les éducateurs et toute la protection de l'enfance, etc., ils nous disent, oui, non, mais franchement, là, c'est E1, mais ça peut aller bien au-delà, en fait, jusqu'en CM2, il n'y a aucun souci, et voire même au collège. Finalement, c'est plus facile pour les collégiens de prendre une petite brochure et de la regarder comme ça, style tiens, je regarde un truc, et ils se reconnaissent aussi parfaitement.
Bien sûr, parce que je vois, j'ai une planche sous les yeux, moi je la trouve très touchante. C'est on a un petit personnage, un animal, un peu comme un petit nounours, mais qui dit, on lui demandait, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur tout le temps, de faire attention à tout? Ben, ça. dans les théories, c'est l'hyper-contrôle, etc. Est-ce que ça t'arrive de ne pas comprendre pourquoi tu es en colère? Moi, je trouve ça super bien de pouvoir décrypter ça, parce que ça permet effectivement de dédramatiser des vécus qu'on ne sait pas toujours identifier. On ne sait pas toujours mettre des mots, même les parents avec les enfants, ils n'arrivent pas toujours à se dire, mais mon enfant, il est en colère, pourquoi il est en colère? Comment je peux parler avec lui de sa colère? Comment je peux traiter sa colère, indépendamment même de toute situation de violence grave. C'est pour toute la vie, quoi, je trouve.
Mais en plus, la mémoire traumatique chez les enfants, elle a cette particularité chez les petits, c'est qu'elle est souvent agie. C'est-à-dire que l'enfant revit une scène de violence qu'il a subie, revit des violences sexuelles, et il va les agir. C'est-à-dire qu'il va se mettre à hurler, il va se mettre à tout casser, ou il va se mettre à avoir des comportements sexuels totalement inappropriés sur les autres, sur lui-même, parce qu'il c'est dans sa tête, il l'agit. Et du coup, aussitôt qu'on lui explique que ce qui vient dans sa tête provient de situations auxquelles il a été exposé, ça change tout. C'est-à-dire que du coup, on lui donne des outils pour pouvoir contrôler ce qui lui arrive, se comprendre et ne plus avoir un regard sur lui atroce, quoi. Ou, je veux dire, il vaut rien, c'est un monstre, il est nul, il est méchant, enfin voilà. Donc on lui donne des éléments pour comprendre tout ce qui se passe dans sa tête et puis pour lui expliquer aussi la dissociation. Cette impression d'être déconnecté.
Tu ne ressens plus rien, fréquente. Comme si tu n'étais pas là et que tu regardais ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est simple comme définition, parce que parfois, moi, je t'ai souvent écouté dans des interviews que tu donnes et tout ça, et comme toi, ton discours, il est super construit, élaboré, etc., de scientifique, de médecin à un psychiatre, parfois, ça va tellement vite aussi la façon que tu as de l'expliquer que peut-être des personnes n'ont pas le temps de capter. Elna, face à ces dessins tout simples, avec ces phrases assez courte. Je pense qu'on sait aussi bien comprendre ce dont tu parles. Et c'est vraiment cet objet, mais il faudrait que ce soit à 60 millions d'exemplaires et que tout le monde en ait un gratuitement.
Alors nous, on le distribue effectivement gratuitement. Donc il est téléchargeable sur le site gratuitement et il est accompagné d'un guide d'accompagnement très précis avec plein d'explications sur tout.
Pour comment s'en servir avec des groupes ou des enfants.
Et puis d'une fiche d'utilisation pratique page à page qui donne plein élément, et une pédopsychiatre aussi qui nous a fait un retour sur l'utilisation dans le cadre de soins, parce qu'il est aussi un outil de soins, il est un outil de dépistage, un outil de prévention, un outil pour tous les enfants, pour qu'ils s'emparent de la situation et qu'ils comprennent, mais il est aussi un outil de soins. Et là, on en a déjà distribué 12 000 exemplaires. On a des demandes qui arrivent tout le temps. D'ailleurs, on met un peu de temps, mais c'est normal parce qu'on a une armée de bénévoles qui font les enveloppes, etc. Ça fait troisième réimpression que l'on fait.
Faut payer,
fait.
Du coup.
Voilà. Et du coup, on a fait un appel aux dons. On a eu des retours vraiment... je remercie vraiment nos donateurs parce que du coup, moi, j'aimerais qu'on puisse continuer à les fournir à toutes les personnes qui les demandent. Voilà. Et du coup, on regarde pas qui demande. Ça peut être un médecin, mais ça peut être une maman, ça peut être un professionnel du social, de l'éducation nationale, des associations pour toutes les personnes en situation de vulnérabilité, les gens qui prennent en charge des personnes qui sont demandeurs d'asile, etc. Ils nous ont dit que c'était génial. Et les policiers. On a plein de retours de policiers, de brigades des mineurs, qui nous disent « Ah, grâce à votre livret, les enfants ont pu parler. »
Oui, et puis moi, j'ai peut-être mieux compris des trucs aussi.
Voilà, ils ont déjà, ça, ils ne le disent pas trop. Mais surtout, ils nous ont dit qu'en lisant le livret avec l'enfant, du coup, il avait pu beaucoup plus précisément parler. Se décoincer, en fait, par rapport à un blocage total.
Et vous pouvez aussi, alors, pour nos auditrices et auditeurs, vous pouvez aussi télécharger la brochure sur Internet, sur le site Mémoire Traumatique, et l'imprimer pour la diffuser autour de vous. Si l'impression est moins jolie et le papier moins glacé que sur la petite brochure, c'est pas grave, ce qui compte, c'est le contenu.
Voilà.
Et donc, vraiment, merci Muriel pour tout ton travail, toute ton énergie. Est-ce que tu vois quelque chose que tu voudrais ajouter pour nos auditrices?
Non, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que alors qu'on était quand même un petit peu déprimés, là, faut dire, avec tout ce qui se passe. on a appris en 2018 que depuis 10 ans, il y avait 40% de condamnations pour viol en moins. C'est-à-dire que il y a de moins en moins de condamnations pour viol. C'est-à-dire que l'impunité s'aggravait. Et depuis 2019, jusqu'en 2022, il y a 31% encore de condamnations en moins.
C'est-à-dire qu'au total, l'impunité s'aggrave encore plus.
Ouais, donc on va être à 60% de condamnations pour moins. Donc de toute façon, là...
On va bientôt être à 0% de condamnations.
Voilà. Et donc ça veut dire qu'on doit vivre avec plein de gens qui sont des criminels autour de soi. Et franchement, ça nous a fait chaud au cœur de voir autant de gens impliqués. Parce qu'en fait, les demandes, elles sont souvent très sympas. Parce que les gens expliquent pourquoi ils nous demandent de le livrer. Et ils veulent en plus le donner autour d'eux. Ils sont pleins d'idées. Et puis après, on leur demande des retours. Et ils nous donnent des retours sur l'utilisation, et on se dit qu'il y a un maillage extraordinaire, et là pour une fois c'est pas Paris, c'est vraiment, on est vraiment hyper représentatif de l'ensemble du territoire français et des DOMCOM, c'est-à-dire partout et d'autres pays aussi, tous les pays francophones nous le demandent, et donc on se dit qu'il y a plein de gens qui veulent que ça bouge, qui veulent que ça change. Dernière petite chose, sur notre enquête quand on leur a demandé si les gens étaient d'accord pour toutes les mesures, un train de mesures qu'on demande pour la création de centres, la formation des professionnels, pour l'imprescription pour la levée de prescription en cas d'amnésie traumatique, pour une meilleure prise en compte des viols avec le consentement, puis avec la notion de consentement et avec pour les personnes handicapées, ils sont 90%, entre 80 et 90% à être d'accord. Donc les gens ont envie que ça bouge, ça c'est clair.
Mais il faut qu'on
lutte contre cette propagande anti-victimaire et cette propagande violente. Et,
avec cette culture du viol absolu,
et une domination totale, où vraiment, si vous n'êtes pas un dominant, vous ne valez rien, quoi. Faut vraiment qu'on arrive à changer la donne sur.
Et ça, sur la domination.
Ça fait chaud au cœur.
Oui. Merci Muriel, bon courage pour la suite.
Merci.